Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 4, les versets 1 à 16. Genèse chapitre 4, versets 1 à 16. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Alors, on va demander la bénédiction du Seigneur sur notre étude. Notre Dieu, il est vrai que le chapitre 4, cette histoire de Caïn et d'Abel est d'une grande importance parce que déjà, on voit que les hommes ont des façons d'essayer de te présenter des offrandes qui sont très différentes. Et dans le fond, l'offrande de ces deux hommes résume bien les deux manières, Seigneur, celle de chercher à gagner ta faveur par les œuvres et celle de vraiment reconnaître par la foi le sacrifice qui est nécessaire, Seigneur, pour entrer, pour être réconcilié avec toi. Alors, Seigneur, donne-nous de bien comprendre ces deux choses-là, parce que, dans le fond, ça résume à peu près toutes les façons que les hommes ont pu inventer depuis le début pour essayer de te présenter des offrandes, celles qui sont vraiment des offrandes par les œuvres. Il n'y a, dans le fond, que deux religions dans le monde, toutes celles qui découlent des œuvres et celles qui découlent de la grâce. Alors, Seigneur, on te prie de permettre qu'on comprenne profondément et que ces choses-là s'enracinent dans nos pensées et que tout cela provoque des changements authentiques, réels et véritables dans nos vies. C'est ce qu'on te demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé le sermon tout simplement « Caïn et Abel, deux réponses aux prérequis de Dieu pour l'approcher ». On est en train de dire que pour approcher Dieu, il y a des prérequis. Il y en a un qui les rencontre, l'autre ne les rencontre pas. Alors, on va regarder que la première idée qu'on va examiner dans le texte, c'est que les prérequis divins sont établis. Ils étaient même établis à cette époque-là. Et on va le confirmer non seulement par la lecture de ce texte-là, mais par d'autres textes du Nouveau Testament qui viennent parler que l'offrande d'Abel avait été reçue par Dieu à cause du fait qu'elle était faite par la foi en la victime. Alors, le deuxième point qu'on va regarder, c'est comment Les prérequis divins sont rencontrés par l'homme charnel, qu'on pourrait dire que Caïn est un type, un symbole de l'homme charnel. Tandis qu'on va regarder comme troisième point comment les prérequis divins sont établis ou rencontrés par l'homme spirituel, Abel. Alors, on le sait, dans les affaires des hommes, il y a des prérequis qui sont établis pour à peu près toutes les activités humaines possibles et imaginables. Si vous faites application pour un travail, on va vous dire, bon, ça vous prend tel degré d'éducation, ça vous prend tel âge, ça vous prend plein de choses. On va définir ce qu'ils veulent. Mais c'est pas juste dans le domaine, c'est dans le domaine aussi, par exemple, vous voulez essayer de rentrer à l'université. Ils vont dire, bon, ça va te prendre deux années d'études collégiales. Pour aller en médecine, ça va te prendre des cours de chimie, de physique, etc. Alors, dans les choses humaines, les prérequis sont établis dans presque tous les domaines d'activité. La pratique d'une profession, par exemple. Je peux pas dire du jour au lendemain, bon, ben, moi, je suis médecin. Pour être médecin, il faut que tu fasses tant d'années à l'université, il faut que tu étudies telle chose, il faut que tu passes des examens, il faut que tu sois reconnu pour le collège des médecins, etc. Alors, toutes les activités humaines contiennent des prérequis. Le code du bâtiment. Est-ce qu'on construit une église, un bâtiment quelconque, de façon n'importe... On a des codes à rencontrer concernant l'électricité, concernant le chauffage, concernant le type de matériaux, et toutes ces choses-là, c'est établi dans le code du bâtiment. Des prérequis. Peu importe ce qu'on fait humainement, quand on suit les lois humaines et les réglementations humaines, on a des prérequis rencontrés. Pourquoi ce serait différent dans les choses de Dieu? Ce n'est pas différent. Alors, dans les affaires divines, les prérequis sont aussi établis par le Seigneur. Par exemple, comment offrir à Dieu un sacrifice acceptable pour lui? Pourquoi il a accepté le sacrifice de Christ quand Christ s'est présenté et qu'il était devenu l'agneau de Dieu? Pourquoi il est acceptable? Parce qu'on l'a vu un petit peu tantôt dans notre prière, on a dit que Christ avait subi le châtiment, qui avait accompli la loi à la perfection, qu'il était une victime parfaite, ce qui rendait le sacrifice acceptable à Dieu. Alors, Dieu nous a dit aussi dans les Écritures à différents endroits comment on se devait de s'y prendre pour adorer Dieu, pour que ce soit acceptable à ses yeux. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui prétendent adorer Dieu, mais s'ils ne le font pas selon ce que les Écritures commandent, c'est une adoration fausse et vaine, qui ne donne absolument rien, qui ne monte pas plus haut que le plafond, comme on dit. La véritable adoration se doit d'être accomplie selon ce que les Écritures nous enseignent, sinon, c'est pas valable. Comment prier? Et on pourrait allonger la liste. On pourrait avoir beaucoup de comment, de comment, de comment. Tout ça, c'est déterminé par les Saintes Écritures. Mais aujourd'hui, on étudie deux réponses au prérequis de Dieu pour l'approcher, pour être réconcilié avec Dieu. Alors, le premier point qu'on a dit qu'on regarderait, c'est que les prérequis divins sont établis. Comment on pourrait dire que Caïn et Abel savaient les prérequis de Dieu? Est-ce qu'on pourrait se baser sur un verset du livre de la Genèse, dans ce qu'on a vu jusqu'à l'heure actuelle? Et quel était ce verset-là? Genèse 3, 21, qui disait « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau, il les en revêtit. » Autrement dit, pour que tu puisses... on se souvient qu'eux, ils s'étaient revêtus d'une ceinture faite de feuilles, et on sait qu'une ceinture faite avec des feuilles, c'est pas trop solide. Et le Seigneur avait démontré prophétiquement qu'on se devait d'être vêtu et de quelque chose qui... Il y a vraiment beaucoup de symboles là-dedans. Alors, les robes de peau, il les a revêtues, mais ça l'avait pris quoi pour qu'ils puissent revêtir Adam et Ève? Il fallait qu'il y ait un animal qui a été tué. On ne peut pas prendre une peau d'animal sans le tuer. Alors déjà, en symbole, la question qu'on se devait pour être revêtu, on parle souvent de la robe de justice de Christ, Alors, il faut qu'il y ait un animal. Et dans les Écritures, on utilise souvent l'image de l'agneau pour parler de Jésus-Christ. Alors, on est recouvert de sa robe de justice. Alors, déjà, le père et la mère de Caïn et Abel leur avaient très certainement enseigné ça. Là, tu vas me dire, « Ouais, mais où tu lis ça, toi, dans le livre de Genèse 3? » C'est pas marqué dans le livre de Genèse 3. Mais d'un autre côté, c'est marqué dans le livre d'Hébreu, qui est dans le Nouveau Testament, et on parle du sacrifice d'Abel dans le Nouveau Testament. Alors, quelque part, ça dit dans Hébreu, chapitre 11, verset 4, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, en parlant de la foi, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Comment l'offrande d'Abel nous parle encore aujourd'hui? Elle nous parle encore parce qu'il a amené un animal et il savait que pour se débarrasser de sa culpabilité, il fallait qu'il y ait un animal. Autrement dit, c'est l'idée de la substitution. Il faut que ma mort, si je ne la subis pas moi-même, qu'elle soit faite par un autre. Déjà, c'était inclus, parce que les Hébreux nous le disent, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Pourquoi il peut être déclaré juste? Parce qu'il y a un animal qui est tué. Bien sûr, parce que tout ça représentait la foi que Dieu lui avait déjà donné la leçon dans Genèse 3, 21, que pour être réconcilié avec Dieu, il fallait qu'il y ait mort, une substitution à ta propre mort. Alors, quand on regarde, on dit que les habits de peau que l'Éternel avait enseignés à Adam et à Ève, ça contenait dans le fond des leçons spirituelles. Et la première était que pour un pécheur coupable puisse approcher un Dieu saint, il se doit d'être convenablement vêtu ou couvert. Autrement dit, si vous essayeriez aujourd'hui d'aller, disons, à une entrevue, prenons un roi de la terre, on exigerait que vous soyez convenablement vêtu, et bien plus quand on veut se présenter devant Dieu. Quelle est notre robe de justice? Ce sont l'obéissance de Christ qu'il a accomplie sur la terre. C'est ça qui nous recouvre. On est, comme les Écritures parlent souvent, de la nudité de l'homme. Quand il se présente devant Dieu, s'il n'est pas recouvert de la robe de justice, souvenons-nous de la parabole que Christ a utilisée quand il parlait des noces. Il dit, il est rentré, il a vu quelqu'un qui n'avait pas d'habit de noces. Qu'est-ce que tu fais ici sans habit de noces? Prenez-le, liez-le, et jetez-le dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu à moins que tu sois couvert. Et c'est une des leçons qu'il montrait, c'est que maintenant, leurs œuvres, qui étaient symbolisées par la ceinture de feuilles, non, tu ne te présentes pas devant Dieu avec ça, il faut que tu te présentes vêtu. Et il y avait tout le symbolisme déjà de l'animal mort à ta place, qui te recouvrait. Première leçon. Deuxième leçon qui était enseignée dans Genèse 3, 21, c'est que les feuilles de figuier cousues de leurs propres mains n'étaient pas acceptables pour lui. Vraiment, c'est le symbole du salut par les œuvres. Quelqu'un qui essaye de rentrer dans la présence de Dieu et de croire qu'il va être réconcilié avec lui par son obéissance au décalogue, à la loi, ou par ses propres œuvres. « Ah, moi, j'ai été bon, j'ai été charitable, j'ai aidé les pauvres, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Voyez-vous, c'est tout « j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Plutôt que « lui ». Nous, quand on est chrétien, on sait que c'est pas par nos œuvres qu'on rentre dans sa présence, c'est pas par nos œuvres qu'on est réconcilié avec lui, c'est par l'œuvre de Christ, par la personne de Christ. La personne et l'œuvre, les deux en même temps, la foi en cela. Donc, les feuilles de figuier, nos propres œuvres, c'était déjà enseigné. On parle souvent du livre de la Genèse comme étant le livre des premières choses. Tout est là, mais c'est comme ça va se développer dans le long des Écritures. Toutes les grandes vérités sont dans Genèse. Parce que déjà, comme dans, on parlait de Genèse 3.15 comme étant le proto-évangile, comme étant l'évangile qui était annoncé qu'il y aurait un Messie. Quand on parlait qu'il va t'écraser la tête et toi tu lui écraserais le talon, qu'est-ce que ça dit? C'est une prophétie sur la venue future du Messie. Alors tout est là, mais ici on a encore la même idée, mais c'est pas développé. Alors les feuilles de figuier, autrement dit, si le Seigneur a pris à peine de les recouvrir d'une peau d'animal, c'est qu'il voulait dire, le petit tablier que vous faites là, c'est pas solide puis ça vaut pas cher. Alors, il l'a enlevé puis il a mis d'autres choses de meilleures. Troisième leçon, c'est que Dieu lui-même se doit de pourvoir aux vêtements. Et le vêtement, c'est la robe de justice de Christ. Et qui a pourvu pour ça? C'est Christ qui est venu sur la terre, qui était à la fois l'homme et Dieu, et qui a accompli à la fois notre punition et à la fois le parfait accomplissement des exigences de Dieu. Quatrièmement, qu'est-ce que ça l'enseignait? Que le vêtement nécessaire ne pouvait être obtenu qu'à travers la mort sanglante d'un substitut. Voyez-vous, tout est là, mais en germe. C'est comme si c'est comme quand tu mets une graine en terre. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, de faire pousser quelque chose chez vous. Je me souviens d'avoir déjà essayé. Moi, quelqu'un m'avait dit, on va prendre un morceau de pamplemousse, les graines qu'il y a dans les pamplemousses, puis on met ça dans la terre. Puis si vous l'entretenez comme il faut, là, au bout d'un certain temps, ça va venir... Puis si vous auriez vraiment ce qu'il faut, là, ça deviendrait véritablement un arbre. Alors, c'est important qu'on voit que tout cela, là, le substitut, tout cela, c'est déjà en germe dans les vérités qui sont annoncées dans cela. Alors, on le sait que les deux avaient reçu la même éducation, avaient été dans la même famille. Il y a eu Caïn qui était le premier, le deuxième, c'était Abel. Ils ont fort probablement reçu la même éducation, mais leur manière de chercher à s'approcher de Dieu variait considérablement. Et c'est ça que le texte veut nous faire comprendre, qu'il y a une manière de vouloir approcher Dieu qui n'est inacceptable et qu'il y a une manière d'approcher Dieu qui est acceptable. Alors, on a la confirmation par Hébreux 11.4. Qu'on parle véritablement ici de quelque chose qui pointe prophétiquement vers le Christ. La foi qu'Abel avait, c'était la foi au Messie qui viendrait. Et c'est déjà intéressant de voir quand il était lui-même un berger. Alors l'image du berger, l'autre un laboureur, l'image du berger, Christ était un berger. Et l'animal qu'il a pris, c'était... Les premiers de son troupeau et la graisse. Autrement dit, il a voulu offrir à Dieu la vie elle-même. Autrement dit, il savait que pour recouvrir sa volonté de vivre devant Dieu, ça ne pouvait se faire qu'à travers la substitution de sa mort, que ce soit l'autre qui meurt à sa place. Maintenant, on va regarder le deuxième point. Comment les exigences de Dieu, comment ils sont rencontrés, les prérequis de Dieu, par l'homme charnel. On va commencer par Caïn, parce qu'il représente vraiment dans le texte l'homme charnel. Alors, ça dit dans le verset 1 et 2, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit, Il formait un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. » Ici, nous voyons que Ève a fait preuve de spiritualité face à la naissance de son fils premier-né. Parce que on sait que l'enfant, bien sûr, est le fruit de son union sexuelle avec Adam. Mais la sexualité de l'être humain, on sait qu'elle ne se réduit pas à des instincts sauvages, mais à un acte conscient, intime et légitime pour l'homme et la femme dans le cadre du mariage. Alors, bien que le bébé soit le résultat d'une telle union, Ève sait qu'il y a plus dans le fait d'avoir son premier-né. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a pu croire dans son premier-né? L'accomplissement de la prophétie. Alors, quand elle parle d'acquisition, elle a cru que le premier fils que Dieu lui donnait serait Alors, il y a de la foi là-dedans. Alors, il y a la foi de qu'il y a, elle sait qu'il y a plus que la naissance. Il y a encore l'espoir, l'espérance que le Seigneur lui avait dit que par la femme viendrait le Messie. Alors, elle, c'est sûr, elle ne savait pas que ça prendrait 2000 ans. Mais ça a pris quand même 2000 ans, mais la promesse de Dieu s'est quand même réalisée. Alors, à la naissance, bien sûr, elle a dû commencer à ressentir ce que Dieu avait dit, ce qui était les conséquences de son péché, donc l'accouchement dans la douleur. Alors, l'accouchement dans la douleur lui rappelle le jugement divin. Mais le Seigneur l'a délivré de ses souffrances et le nom de Caïn, attribué à l'enfant, exprime sa foi en Dieu. Adam et Ève ont un deuxième fils, Abel, et le nom d'Abel semble que ça signifierait souffle ou vanité. Et le nom prophétique rappelle la frustration et la nature fragile de la vie physique dans ce monde soumis à la malédiction. C'est intéressant de voir les deux métiers aussi que les deux ont choisi. Un laboureur, vraiment la terre. L'autre, vraiment, on sait que souvent, les serviteurs de Dieu ont souvent été des bergers. L'idée du berger part de l'Ancien Testament et traverse toute la Bible jusqu'au Nouveau Testament. On parle de Jésus comme le grand berger. Alors, juste suite là, même dans les messies choisis, on a du symbolisme concernant la venue future du Messie. Alors, on regarde l'approche que les deux hommes, que Caïn va faire, l'approche, lui, pour rencontrer les prérequis de Dieu. Ça dit dans le verset 3, on va le lire jusqu'au verset 5, « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Et là, ça dit, « Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Une chose qu'on ne remarque peut-être pas, parce qu'on des fois, on pourrait se dire, « Ben, il a offert des fruits de la terre, c'est ce qu'il y avait de mieux dans ce qu'il avait cultivé, il avait travaillé la terre, il avait sué de son front, il offre ça au Seigneur. » Il me semble qu'on est porté à penser, à dire, « Ben là, qu'est-ce qu'il y avait de mal là-dedans? » C'est parce qu'on ne réfléchit pas assez. Si on réfléchirait un peu plus, on se rappellerait que la terre avait été maudite par le Seigneur. Quand tu offres quelque chose au Seigneur qui a déjà été maudit, tu ne fais pas un geste d'une grande intelligence. Le sol était maudit. Et lui, il lui offre le fruit du sol de la terre. Alors déjà, c'était mal parti. Pourquoi il a offert Alors, c'était un sacrifice sans effusion de sang. Tout simplement que fort probablement, il n'avait pas la foi. S'il avait possédé la foi, ce principe du vin lui aurait été enseigné, même dans ses premiers jours de l'histoire de l'homme, comme ça dit dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang. Il n'y a pas de rémission. C'est là vraiment une vérité de première importance. Il agit comme si Dieu pouvait accepter le fruit d'une terre maudite. Alors, le salut par les œuvres, c'est exactement la même chose. On est sous sa malédiction, on n'est pas réconcilié avec lui, puis on pense que nos gestes, nos actions, notre façon d'agir avec notre prochain est suffisant pour regagner, alors que c'est déjà toutes ces choses-là sont maudites. Si on ne place pas notre foi dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ, c'est sûr qu'on ne va pas très loin avec ça. On ne pourra pas s'approcher de Dieu avec cette condition-là. Alors, le sacrifice non sanglant de Caïn démontrait non seulement son ignorance complète quant à sa propre condition, mais aussi son ignorance complète à l'égard du caractère de Dieu. Versets 6 à 8, on a vraiment l'asservissement au péché de l'homme naturel. Et l'Éternel dit à Caïn. Alors là, on voit que Caïn s'était très irrité, le visage abattu. Autrement dit, ce qu'il a fait, il était en grande colère. Et en plus d'être en colère, il a fait une dépresse, comme on dit en québécois. Il a fait une dépression. Pour lui, il a vraiment... Il l'a pas pris, comme on dit. Alors, ça dit, dit à Caïn, et là, le Seigneur intervient. C'est comme si le Seigneur, avant de le laisser aller dans la débandade de son péché, lui dit que s'il avait voulu, simplement en réfléchissant, changer son attitude. Parce qu'il lui dit, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, qu'est-ce qu'il laisse sous-entendre? » Il laisse sous-entendre que le sacrifice d'Abel était correct, puis si tu agis comme lui, je vais l'accepter aussi. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tenu compte de ce que Dieu lui dit. Il a fait un entêtement. Et là, ça dit, adressa la parole à son frère Abel. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Comment il l'a approché? Il lui a très certainement, fort probablement pas approché avec des paroles agressives. Il lui a probablement attiré dans le champ pour qu'il était loin, pour que personne ne voie. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On est ici témoin du premier meurtre de toute l'humanité. Alors, Caïn est en colère contre Dieu, puis il est en colère contre son frère. Son attitude, l'attitude du Seigneur devant son irritation révèle l'amour de Dieu, qui lui, c'est comme s'il veut, mais fais ce qu'il faut, puis tu vas être correct. Puis sinon, le péché se couche. Et dans l'hébreu, selon les commentateurs, ils disent que l'image que le Seigneur veut faire passer dans la tête de Caïn, c'est comme une bête sauvage qui t'attend, puis que si tu agis pas, elle va sauter sur toi, puis elle va littéralement te dévorer. C'est ça qui est l'idée dans le texte hébreu. Alors, Dieu cherche à gagner le rebelle, il lui indique la voie du pardon et du salut, il l'avertit du danger qu'il court. Un peu comme nous, aujourd'hui, on avertit les gens, quand on essaie de leur parler de l'Évangile, qui nous répondent, « Oh, ben moi, ma vie, je n'ai pas fait de mal à mon prochain. » Et ils ne se laissent pas avertir. Parce que même si tu leur dis, « Si tu ne changes pas, et si tu ne reçois pas la grâce de Dieu, et si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, et si tu ne changes pas ta vie, c'est là que tu vas aller. « Oh, ben j'ai rien fait de mal. » Tu vois, l'entêtement, c'est pas d'hier, là, ça a commencé, ça. Alors, Caïn refuse de s'humilier et il refuse de suivre le chemin que Dieu a tracé. Au contraire, il s'assujettit de plus en plus à ses propres passions et à ses convoitises. Autrement dit, il est choqué, il se laisse aller à sa colère et il laisse aller ses passions. Alors, il endurcit son cœur, il a le refus d'écouter Dieu, c'est un grave péché. Et il y a le refus de la jalousie, parce que là-dedans, il y a beaucoup de péchés qui sont révélés. La jalousie, parce qu'il a vu son frère, lui, Dieu l'avait accepté, et ça, il est jaloux de ça. Et ça, tout ça l'a conduit à tuer son propre frère. Comment il l'a fait avec une roche, avec un couteau, avec ses mains, la Bible ne le dit pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est un acte dur, impitoyable et très violent. La violence, on sait qu'à partir de ce chapitre-là, on va en avoir de plus en plus de violence qui va apparaître dans les Écritures. On le sait que dans le chapitre 6, par exemple, Dieu dit que toute la terre était remplie que de violence. Alors, ça a commencé, mais ça s'est développé. Alors, on a ici l'idée du premier crime, mais on a aussi l'idée du premier martyr. Quelqu'un qui est mort par sa foi, pour sa foi. Alors, tout à l'heure, on disait que le cœur de l'homme charnel, dans le texte, on voit beaucoup de péchés qui sont révélés. On a regardé plusieurs. Premièrement, l'irritation et la colère quand il se voit annoncer son péché, très irrité. Avez-vous déjà annoncé l'Évangile à quelqu'un en essayant de lui parler de son péché? Voyons, j'ai rien fait de mal, j'ai toujours respecté mon prochain, autrui, et quand tu lui parles de son péché, as-tu déjà menti une fois? As-tu déjà volé une fois? As-tu déjà... Et là, quand tu amènes le péché dans sa vie, là, souvent, « Ah, chante-moi pas que ça, là, je veux rien savoir de ça. » L'homme s'irrite quand on veut lui révéler son péché et qu'on veut lui révéler là où ce péché-là va l'emmener. Autre chose que ça l'amène, c'est la dépression. L'homme que tu accuses de péché et que tu lui dis qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu, il va être dépressif. Il va faire une dépression. Son visage fut abattu. Alors, quand tu as le visage abattu, normalement, tu es en train de démontrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de ton âme. Autre chose, verset 7, la rébellion. Même si Dieu lui dit, si tu fais bien, il n'y aura pas de problème. Puis si tu fais mal, le péché se couche à la porte, puis il va foncer sur toi, puis il va te dévorer. Alors, la rébellion. Il s'est rébellé malgré ce que Dieu lui a dit. Autre chose, la jalousie. Il était jaloux que son frère, lui, son offrande a été acceptée. Et aussi, il y a de l'orgueil de se maintenir dans sa position, malgré le fait que l'Éternel lui-même intervient dans sa vie. Il s'entête quand même. Alors, il y a vraiment un grand péché d'orgueil. Fort probablement qu'il y a le péché d'hypocrisie aussi, parce que s'il était dans un état de colère comme ça intérieur, puis qu'il approche ton frère dans le but de l'emmener dans le champ, il a fallu qu'il l'approche pour le faire venir dans le champ. Alors, j'ai affaire à toi, avec un beau discours mielleux, puis peut-être quelqu'un qui est arrivé dans le champ, là, sa colère a vraiment sorti. Alors, il y a de l'hypocrisie. Souvent, le péché, c'est ce que ça fait. Ça l'amène de l'hypocrisie dans la vie des champs. Il y a la violence meurtrière dans le verset 9. Et dans le verset 9, il y a un autre péché qui est mentionné, le mensonge. « Où est ton frère Abel? » Il dit « Je ne le sais pas. » Imagine, tu viens de tuer quelqu'un, puis quelqu'un te demande « Qui est ton frère? » Puis tu lui réponds « Je ne sais pas. » Déjà, on voit que les péchés s'accumulent dans sa vie. Et un autre péché qui est grave dans le texte, c'est celui de l'impudence ou de fantasme, comme on dit en québécois. Il dit « Suis-je le gardien de mon frère? » L'on dit « C'est à moi le garder, ton enfant, c'est comme... » il y a vraiment quelque chose de... Tu sais, il s'irrite contre Dieu et par sa manière de s'exprimer, il témoigne de sa volonté d'accuser Dieu, presque, et d'ignorer son omniscience. Quand Dieu lui demande « Où est ton frère Abel? » Pensez-vous que c'est parce que Dieu ne savait pas où il était, Abel? C'était juste pour l'accuser, c'était juste pour lui faire prendre conscience de son péché. Alors, dans le verset 9 à 16, on a le châtiment divin de l'homme charnel. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Alors, il y a quelque chose qui démontre que, dans le fond, quand le sang est répandu, Dieu voit ça comme un cri qui part de la terre qui se rend jusqu'à lui. Alors, il dit, verset 11, « Maintenant, là, il lui donne sa sentence. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Et là, Caïn, au lieu de recevoir la sentence avec soumission, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » C'est bizarre, hein? Un meurtrier qui a peur de se faire tuer. C'est bizarre, le péché, qu'est-ce que ça amène dans la psychologie de l'être humain. Lui-même est un meurtrier, puis il a peur qu'à cause qu'il a tué quelqu'un, qu'on veuille le tuer à cause de ça. Et l'Éternel, aussi, dans le verset 15, démontre de la miséricorde envers lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Verset 16, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. » Quand on étudie le texte un petit peu plus attentivement, on voit que c'est comme un procès dans 9 à 16. Il y a l'interrogatoire, verset 9. Il y a la condamnation, verset 10. Et dans le verset 11 à 16, on a l'exécution de la sentence. Quand vous regardez le texte d'aplomb, vous allez voir que tout ça est là. Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent concernant le versement du sang de l'homme par l'homme? Le sang versé par un homme sur un autre homme, ça souille, que les Écritures utilisent, nous enseignent tout au long de l'Ancien Testament. Et on a la preuve de ça dans Hébreux, chapitre 9, versets 22-23. « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, et que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ça. » Voyez-vous, le sang souille et le sang purifie. Les deux. Quand c'est le sang de l'homme qui verse le sang de l'homme, ça souille la terre, littéralement. Ça souille un pays. Quand vous lisez l'Ancien Testament, sur tous les passages qui parlent, quand il y a eu du sang versé, l'Éternel disant, le pays est souillé. C'est le pays, pas juste l'endroit où ça a été fait, le pays devient souillé par ces choses-là. Mais les Écritures nous disent aussi qu'à cause du sang de Christ, le sang de Christ purifie aussi. Alors, il y a vraiment les deux aspects. Quand le sang de l'homme est versé par l'homme, ça souille. Et quand le sang de Christ, lui, il purifie de tout péché. Il y a quelque chose d'intéressant qui est mentionné dans le verset 11 et 12 et que fort probablement, quand on lit rapidement, ça nous échappe. Quand ça dit « Caïn est maudit de la terre », dans le verset 11, « Adam et l'humanité connurent les effets de la malédiction prononcée sur la terre. » La malédiction a été prononcée sur la terre. Caïn, lui, subit la malédiction de la terre. Il y a une différence entre les deux. La sanction est adaptée à sa fonction de cultivateur. Le sol ne lui donnera plus sa richesse. La terre ne produira que peu dorénavant. Alors, Caïn est devenu errant et vagabond. Un apatride, on pourrait dire, t'es plus de patrie. En français, ils appellent ça SDF, nous on appelle ça des robineux ou des sans-abri. Un SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Quelqu'un qui erre puis qui est vagabond, il s'en va dans toutes les directions, le matin il ne sait pas où il va aller, le soir il ne sait pas où il va aller, il ne sait jamais où il va aller. Un errant et un vagabond. Alors la sanction qui frappe Caïn n'est autre qu'un bannissement de la terre. Voyez-vous, si vous faites la distinction dans les deux mots que je vous dis, un, la malédiction est amenée sur la terre, lui, il est banni de la terre. C'est vraiment littéralement une mise à mort pour son crime, mais qui n'arrive pas tout de suite. Le verdict correspond toutefois à la sentence capitale, comme le suggère sa réplique. Il est éloigné du sol fertile, éloigné de sa famille, éloigné de la présence bienveillante du Seigneur. Bien sûr, la sanction qui est donnée à Caïn représente aussi symboliquement la sanction qui est donnée aux hommes qui ne sont pas vraiment réconciliés avec Dieu. Elle illustre vraiment l'enfer, qui est le bannissement, loin de la nouvelle terre et de la race de Dieu, et de la privation de tout ce qui est agréable et reposant, et elle annonce des tourments continuels. Vraiment, dans la condamnation de Caïn, on peut voir tout le symbolisme concernant la condamnation de l'homme qui meurt dans son péché. Maintenant, dans le verset 13 et 14, on ne voit pas que Caïn implore le pardon. Il me semble qu'il aurait pu dire, « Seigneur, j'ai gravement péché. » Le Seigneur pardonne même les meurtres, parce que David a fait un meurtre avec l'histoire de Bathsheba. Parce qu'il a envoyé quelqu'un demander au général de le mettre à un endroit où c'était le plus dangereux. Puis à cause de ça, il est mort. Alors, David est un meurtrier, comme Caïn. Mais la différence entre Caïn et David, c'est que David avait la foi que même un péché de meurtre peut être pardonné par le Seigneur. Tandis que Caïn, il n'a pas exprimé aucune repentance, ni aucune humiliation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il considère son péché, son châtiment, comme pire que la mort. Quelle ironie de voir celui qui vient de tuer son frère craindre que quelqu'un le tue. La protestation de Caïn est à l'opposé de l'aveu du brigand sur la croix, qui dit « Je fais tout simplement subir le châtiment qui m'était dû et je le reconnais. » Lui, c'est pas ça. Il reconnaît. Il dit que c'est trop pour lui. Il ne prend pas, autrement dit, la punition de Dieu. Et Dieu manifeste sa miséricorde dans le verset 15 quand il lui dit « Non, je ne permettrai pas que quelqu'un te tue parce que tu as tué. Je vais mettre un signe sur toi. » Et les commentateurs n'ont pas vraiment d'idée juste quel pouvait être le signe, mais sûrement que c'est un signe que les autres n'osaient pas défier, parce que c'est un signe que Dieu ne permettait pas que Caïn soit tué parce qu'il était lui-même un meurtrier. Et quand on regarde dans le verset 16, il est condamné à l'exil. Un exilé, c'est pas drôle. Il est condamné à errer. Parce que le mot « nod » dans l'hébreu, ça veut vraiment dire l'errance. Tu t'en vas dans l'errance. Et l'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu, qui ne veut pas l'approcher selon ses prérequis, il est comme Caïn, il est errant, il est vagabond sur cette terre, et sa condamnation, tôt ou tard, va arriver la même chose que celle de Caïn. Alors, comme Judas, Caïn est de la postérité du serpent. On avait vu qu'il y avait deux postérités, postérité du serpent, postérité de la femme, qui était celui qui était le Messie, et ceux qui sont en Christ, dans le Messie. Alors, bien sûr, cette histoire-là, ça vient nous servir d'avertissement pour ceux qui sont chrétiens de nom. Alors, on se doit de nous accrocher fermement au moyen d'acceptation que Dieu lui-même a fixé, à savoir les mérites du sang et de la justice de Christ. Alors, vraiment, ça l'enseigne tout cela. Et on a besoin de se faire rappeler ça. Maintenant, on va regarder le troisième point. Comment les prérequis de Dieu sont rencontrés par l'homme spirituel qui est vraiment Abel. Abel est un homme juste selon les Écritures. Et si je vous disais, donnez-moi le passage, on a ça dans Matthieu, chapitre 23, les versets 34 et 35. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel le juste, voyez-vous, c'est pour moi qu'il dit, là, les Écritures disent « depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Voyez-vous, le Seigneur dit « afin que retombe sur vous tout le sang innocent. » Alors, il y en a eu énormément. Je me souviens d'avoir déjà lu une petite brochure qui s'appelait « Le sentier du sang ». C'était une analyse historique faite dans les différents siècles de l'histoire de l'Église pour démontrer jusqu'à quel point les véritables croyants ont été persécutés et qu'il y a eu beaucoup de sang versé. Alors, c'est ça que Jésus est en train de parler. Il est en train de parler du sang innocent. Et ici, il parle du sang innocent de l'Ancien Testament parce qu'il dit « La belle le juge jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Et bien sûr, le sang innocent versé dans le Nouveau Testament est également compris dans tout cela. Alors, Abel est un juste selon les Saintes Écritures. Aussi, Abel approche Dieu selon la volonté révélée du Seigneur. Romains 1, versets 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Nous, on peut se considérer juste parce que les Écritures nous disent qu'on est juste, mais pas sur la base de notre propre justice, sur celle que ça dit ici, révéler la justice de Dieu par la foi. On parle de la justice qui a été révélée par Jésus-Christ. Voyez-vous, Romains 10, versets 2 à 5, va nous parler aussi de la manière que les Juifs étaient portés à considérer leur propre justice pour se justifier aux yeux de Dieu, pour être réconciliés avec Dieu. Voyez-vous, Romains 10, versets 2 à 5, va dire, « Je leur rends témoignage. » Paul parle des Juifs, de ses concitoyens. Il dit, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. N'est-ce pas que c'est exactement la même chose qu'Adam? Ils cherchent à établir leur propre justice plutôt qu'à se soumettre à celle que Dieu a établie. Et le verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Autrement dit, la loi, tu ne peux pas arriver à une parfaite obéissance. Aucun homme ne l'a jamais fait. Aucun homme ne le fera jamais. Il n'y a qu'un seul qui l'a fait, et c'est l'homme Dieu, Jésus-Christ. Et c'est à cause de notre foi en lui qu'il l'a accompli à notre place, qu'on sait qu'on peut être déclaré juste aujourd'hui. Alors, Abel adore selon la volonté révélée de Dieu. Il est en paix avec Dieu. Il se reconnaît pécheur, accepte sa culpabilité et accepte sa condamnation. Il croit au témoignage de Dieu et met sa foi en un sacrifice expiatoire et de substitution. Vraiment, l'idée de la foi dans le sacrifice à venir qui comprend le versement de sang et qui comprend aussi la mort. Alors, il accepte de revêtir le vêtement prescrit par Dieu. Son offrande est avec du sang, acceptée par Dieu et aussi par la foi, parce que Hébreux 11 nous dit que c'est par la foi qu'il était déclaré juste. L'homme qui est uniquement religieux, sans être sauvé, peut travailler et se fatiguer, se procurer une offrande à la sueur de son front, faire des vœux, prendre des résolutions, changer sa manière de vivre et s'efforcer d'être moral et droit. Avez-vous déjà vu du monde de même? J'en ai vu plein. Il peut prier, il peut écouter des sermons, cependant, il peut n'avoir devant lui que la mort et le jugement. Si ta manière de t'approcher de Dieu, tu la fais dépendre de tes œuvres, tu peux prier, tu peux aller à l'église, tu peux écouter des sermons, tu peux faire des bonnes œuvres, tu peux faire des bonnes œuvres aux yeux des hommes, et tu n'es même pas sauvé. Alors, devant toi, c'est encore la mort et le jugement qui est là. Pourtant, aux yeux des hommes, les gens me regardent, ben là, voyons donc, j'ai pas de bon sens, que ce gars-là, il y en a en enfer. Il fait une bonne vie, il fait des bonnes œuvres toute sa vie. Les Écritures nous disent que les bonnes œuvres des hommes sont comme des vêtements souillés qu'on voudrait offrir à un roi. Imaginez-vous que vous auriez un cadeau à faire à un roi, puis vous emmèneriez des vêtements souillés, puis il devait un cadeau. Pensez-vous que vous feriez jeter dehors par le fond de culotte, comme on dit? Mais aux yeux de Dieu, les œuvres humaines, ça ne vaut rien. Il n'y a que les œuvres qui sont faites en Christ et pour Christ et par Christ. Tout est en lui. Si on fait les choses en dehors de ça, ça vaut absolument zéro et ça ne comptera pas pour que le fait que tu ailles au ciel ou que tu n'y ailles pas. Alors, l'homme est régénéré, l'homme qui croit que c'est par ses œuvres qu'il est sauvé, les deux lourds nuages du jugement et de la mort. Et quand on parle de la mort, là, on ne parle pas juste de la mort physique, on parle de la mort, de la séparation d'avec Dieu, donc la mort spirituelle, et on parle de l'autre sorte de mort, parce qu'actuellement, les hommes qui ne sont pas régénérés avec Dieu, ils vont connaître la mort physique comme tout le monde, même les élus le connaissent. La mort spirituelle, elle est enlevée à partir du moment où on croit en Dieu et en Jésus-Christ. On est la mort. Parce qu'avant, on était mort, comme les Écritures nous disent, vous étiez mort par vos offenses et voire pour vos péchés. Maintenant, cette mort-là est enlevée. Et la mort éternelle est enlevée pour le croyant également. Mais pour le non-croyant, les trois sortes de morts sont encore en place. Il va mourir physiquement, il est déjà mort spirituellement, et il va aller mourir dans l'enfer, ça dure l'éternité. Alors, loin d'écarter sa condamnation par toutes ses œuvres, il, dans le fond, l'orage qui le menace va finir par arriver. Il est impossible qu'un pécheur se transporte par ses propres œuvres de l'autre côté de la mort et du jugement, dans la vie et dans la gloire. Impossible. Alors, c'est là qu'on a besoin de se recentrer et de penser que tout notre salut, tout le pardon de nos péchés, toute la paix qu'on a recouvert avec le Seigneur, ça ne dépend pas de nous. C'est la foi qui nous a été donnée par la souveraineté de Dieu et qu'on est réconcilié avec lui dans la personne et par la personne du Sauveur Jésus-Christ. Donc, notre punition, c'est Christ qui l'a subi à notre place. Et les exigences que Dieu demandait qu'on vive en sa présence, c'est encore Christ qui a pris notre place. Alors nous, on a l'attitude d'Abel. Abel était déclaré le juste parce qu'il reconnaissait sa culpabilité, parce qu'il a voulu présenter un animal. Donc l'idée de la substitution était présente dans son sacrifice et Dieu lui a dit, celui-là l'accepte. L'autre ne l'accepte pas. Bien important de faire la part des choses. Et je lisais, c'est intéressant de lire ça, parce que si vous preniez le temps d'étudier toutes les religions du monde, on a beaucoup, là. Dans le fond, il y a deux religions possibles sur la terre. Ou c'est une religion des œuvres, peu importe la façon, que ce soit, peu importe la religion, je ne vais pas nommer un nom plus qu'un autre, là. Toutes les religions qui sont basées, toutes les religions qui ne sont pas basées sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ sont des religions des œuvres. Et tu rentreras pas au ciel avec ça. C'est pas vrai. La seule façon que tu vas pouvoir rentrer au ciel, c'est par la foi qui t'est donnée souverainement par Dieu dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et là, faudrait vraiment donner un peu plus de détails concernant ce que ça veut dire croire en la personne de Christ. Qui est Christ? Parce que si tu dis que Christ est un pécheur, tu ne crois pas à la personne correcte de Christ. Alors, il faut, faudrait définir ce qu'on entend par croire en la personne et croire en l'œuvre. L'œuvre de Christ, qu'est-ce que c'est? Bien défini. Un peu comme on le fait quand on prend une confession de foi, là, et qu'on définit qu'est-ce que c'est l'adoption, qu'est-ce que c'est la justification, qu'est-ce que c'est tout ça. Il faut le définir clairement. Et c'est lorsque tu crois en la personne et en l'œuvre de Christ, telle que définie par les Écritures, et non pas telle que définie par tes désirs ou tes sentiments, là, tu vas aller au ciel. Très important de connaître ces deux choses-là. Alors, je fais trois applications de ce texte qu'on vient d'étudier aujourd'hui. Dieu a établi clairement les prérequis pour l'approcher. Premièrement, le besoin d'un sacrifice sanglant et substitutif. Substitutif, ça veut dire qu'il a pris ta place. Sanglant, c'est que les Écritures nous disent sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Autre chose, autre prérequis, l'accomplissement de ses exigences de justice, encore de façon substitutive. On aurait eu besoin d'accomplir les 10 commandements à la perfection sans avoir manqué une seule fois. Personne n'a jamais fait ça. À cause qu'on croit que Christ l'a fait à notre place, c'est bon aux yeux de Dieu. Après ça, on a besoin d'avoir la foi en sa parole. Dieu avait parlé par Genèse 3:21 en couvrant Adam et Ève d'un habit de peau. Il avait parlé de façon symbolique, mais c'était quand même très clair. Parce que la preuve que c'était clair, parce que Abel l'a fait correctement. Alors, ne nous laissons jamais séduire par l'idée fausse que nous pouvons être réconciliés avec Dieu par nos propres œuvres et selon nos propres critères de justice propre. C'était exactement ce que les pharisiens, le peuple de l'Israël croyaient à l'époque où Jésus est venu. Ils croyaient qu'ils pouvaient
être réconciliés avec Dieu par leurs propres œuvres, l'obéissance à la loi. Paul est le meilleur exemple. Paul, il dit, j'étais sans reproche par rapport à la loi. Il pensait qu'il était correct. Mais quand Dieu l'a éclairé, il s'est rendu compte qu'il était vraiment pas correct. Alors là, il s'est confié en Jésus-Christ. C'était le seul moyen, sinon il aurait été comme en enfer comme tout le monde.
Deuxième application, Caïn a beaucoup à nous enseigner sur la nature du pécheur. Volonté de se sauver lui-même sans sacrifice sanglant. 100 fois authentique au Seigneur. Toute religion qui ne passe pas par Jésus-Christ, par sa personne et son œuvre bien définie. Et aussi par son obéissance aux moyens commandés par Dieu lui-même. Alors, quand on regarde la condition du pécheur comme Caïn, on voit que les hommes sont dominés par les mêmes péchés que Caïn était dominé. L'irritation, la colère, la dépression, la rébellion, la jalousie, l'orgueil, l'hypocrisie, la violence meurtrière, le mensonge, l'impudence, l'entêtement dans son péché, l'errance, l'exil, l'absence de la présence divine dans sa vie et la peine capitale et éternelle à la fin de ses jours. Ça existe tout encore. Tout ce que Caïn a mentionné, les péchés de Caïn, les hommes non sauvés, sont en train de les accumuler, peut-être pas tout le monde qui vont tuer. Mais il ne faut pas oublier une chose, que le Seigneur a dit aussi, quand il est mis sur la terre, la mauvaise compréhension que les Juifs avaient. Ils pensaient que s'ils avaient tué jamais personne, soit un fusil, soit un poignard, qu'ils n'avaient jamais tué personne. Le Seigneur a dit que les péchés en pensée, c'est quand il dit, par exemple, celui qui pense qu'il n'a jamais couché avec la femme d'un autre de sa vie, mais que dans sa tête, il l'a fait des centaines de fois, bien, Christ, il dit, t'es aussi coupable de l'avoir fait dans ta tête que tu l'as fait en réalité. Alors, dans nos propres têtes, des fois, on n'a jamais fait de meurtre dans la réalité, mais dans nos têtes, on peut en avoir fait des centaines de meurtres. Alors, le Seigneur a dit, les meurtres dans ta tête, t'as aussi un péché aussi grave que le meurtre commis dans la réalité. Et les Écritures nous disent de ne pas suivre la voie de Caïn, dans Jude, chapitre 1, verset 11. « Malheur à eux, ils parlent des inconvertis, car ils ont suivi la voie de Caïn. » Autrement dit, ils ont agi de façon similaire à celle de Caïn. Et troisième application, glorifions Dieu en suivant la voie d'Abel à tout prix et méditons avec prière sur la signification spirituelle de son récit dans le livre de la Genèse. Que notre grand Dieu soit béni, loué et adoré pour nous avoir révélé par grâce comment nous devons l'approcher et l'adorer. Amen.